Jean-Paul Léger, né à L'Île-Dieu, a sillonné le monde en tant qu'officier radio. Il a publié un nouveau livre racontant ses aventures, Là où souffle le blizzard, carnet d'un radio en mission antarctique, 1971-1973. Il sera présent le 12 août à la Biennale du Livre de L'Île-Dieu. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'une mission antarctique ?
Alors, une mission antarctique, en fait, c'est une mission scientifique, dans un premier temps, qui part généralement donc au mois de novembre-décembre, c'est-à-dire lors de l'été austral, et qui se termine souvent 13 mois plus tard, donc en janvier de l'année suivante. Ces missions, ils ont lieu depuis 1950. De 1840 à 1950, 1840, c'est là où Dumont d'Urville a découvert la Terre Adélie. Avec, je fais une petite parenthèse, un de mes ancêtres qui était à bord de l'Astrolabe, Jean-Nicolas Chalot, et ça, je l'ai découvert bien plus tard grâce à Jean-François Henry qui m'a donné cette information. Enfin, on avait vérifié quand même. Alors voilà, je ferme la parenthèse. Donc 1840, et puis après, plus personne en Terre Adélie. À l'exception, on peut quand même parler du commandant Charcot, qui a fait deux hivernages avec le navire Le Français et le Pourquoi Pas. C'était en 1904-1911. Mais en Terre Adélie, donc personne. Et c'est qu'en 1950 que les premières missions ont recommencé avec l'aviso, commandant Charcot, justement, qui a fait trois missions en Terre Adélie.
Tu as participé à l'une de ces missions antarctiques et tu le racontes dans son livre. Mais ce livre est également largement illustrer, ce qui nous aide à nous rendre compte de ce que ça pouvait représenter qu'une mission antarctique. D'où viennent ces photos et ces dessins ?
Alors, j'ai participé effectivement à la 22e expédition et je suis content que tu parles des dessins parce que j'ai mobilisé mon fils qui est dessinateur, c'est un moment perdu, et qui a réalisé donc, des dessins, alors que ce n'est pas n'importe quoi parce que ce sont des extraits. Enfin, des dessins qui sont faits à partir d'extraits de films Super 8 et de vieilles photos. Donc, c'est vraiment des choses authentiques, ce qu'il a reproduit. Et les photos, j'en ai quelques-unes à moi, et puis quelques-unes de camarades qui ont bien voulu me les prêter.
Et oui, tu parles de tes camarades qui sont vraiment un peu le cœur de ton livre, parce que tu mets en avant l'aventure humaine qui a été pour toi cette mission en Terre Adélie. Et pourquoi choisir de mettre en avant cette dimension particulièrement ?
Alors, effectivement, comme je l'ai précisé au début du livre, cette aventure n'est pas individuelle. C'est une aventure collective, l'aventure d'une équipe. Et c'est vrai que c'est une histoire qui date un peu, mais c'est vrai que lorsque je vois les camarades qui disparaissent les uns après les autres et que j'ai eu la chance de retrouver mes documents, mon journal, mes messages, et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, c'est vrai que cette expédition a eu lieu à une époque qui n'était plus ce qu'on peut appeler l'époque héroïque des pôles, même si les conditions dans lesquelles on vivait sont différentes de celles de maintenant. Mais c'est quand même une aventure un petit peu singulière, Donc, on réalise, en fait, avec le temps, que c'était quelque chose quand même qui n'était pas vraiment ordinaire. Et au début de l'ouvrage, je cite Tonton Robert Guillard, notre chef d'expédition, qui lors de son discours d'adieu nous avait dit « Vous verrez, la Terre Adélie, vous allez l'oublier, vous allez reprendre la vie courante, vous allez retrouver vos familles ou fonder des familles, et la Terre Adélie, vous allez l'oublier. Et puis dans 20 ans, dans 30 ans, vous commencerez à réfléchir et à vous rappeler que le bon temps, entre guillemets, quand même, de la Terre Adélie. Et vous verrez que c'est une expérience qui marque. Et c'est une expérience marquante, effectivement.
Oui, c'est vrai, tu parles de bon temps. C'est un paradoxe que tu mets en avant dans ton livre, c'est-à-dire que les conditions climatiques de vie sont absolument extrêmes. Mais en même temps, c'est émotionnellement, c'est quelque chose de très particulier.
Alors, c'est vrai qu'on vit dans des conditions extrêmes, notamment durant l'hiver austral. L'hiver austral commence à aller vers le mois de mai, juin, juillet. Après, mois d'août, ça va un petit peu mieux. Mais ce qui est pénible, effectivement, c'est l'obscurité. Même si on n'a pas 6 mois de nuit polaire comme peuvent le vivre les Russes de la base de Vostok, par exemple, Mais quand même, on a toute cette période où il fait nuit, et c'est là où on a les plus grosses tempêtes, avec un maximum justement de 325 km/h de vent. C'est ce qu'on appelle des vents katabatiques, des vents très brutaux, c'est-à-dire que ce n'est pas une tempête avec des vents de la même force, c'est des rafales très très violentes, et qui ont occasionné justement l'envol d'un camarade. Alors pour l'anecdote, il s'appelait Perdri, alors c'est vrai que bon, on en a ri après, mais qui s'est littéralement envolé et qui est retombé sur les rochers et qui s'est blessé assez grièvement. Donc c'est vrai que c'est une période difficile. Moralement, c'est pas toujours évident. Mais ce que je retiens, moi, de cette période, c'est la cohésion qu'il y avait entre tout le monde. C'est assez extraordinaire, en fait, parce que je dirais que c'est... Alors, je sais pas si le mot est bien choisi, mais enfin, un agglomérat d'hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Mais c'était donc des hommes de tous âges, en fait, et de toutes conditions, de tout milieu. Ça allait du cuisinier, du menuisier, du technicien, à l'ingénieur de base, au scientifique de haut niveau. Et tout ce beau monde doit s'entendre. Et c'est vrai que, je ne dis pas que les heurts n'arrivaient pas, c'est impossible qu'il y ait dans une promiscuité comme ça, qu'il n'y ait pas de temps en temps. Mais il y avait quand même une très bonne ambiance, et ce qui fait que on reste, je dirais, amis pour la vie, c'est ce que j'allais dire, et qu'on se rencontre, même maintenant, tous les ans, tous les deux ans, les survivants de l'expédition, on a pris l'habitude de nous rencontrer, et c'est vraiment très très sympa.
Et c'est vrai que parmi ce groupe, tu mets aussi en avant des personnages d'exception, non pas Paul-Émile Victor, comme on pourrait s'y attendre, qui est la grande figure médiatique de cette époque, mais des hommes de terrain, justement comme Robert Guillard, dit Tonton, dont tu as déjà parlé, mais aussi le prêtre aventurier Jean, des personnages d'exception. Et pourquoi est-ce que tu as voulu en parler dans ton livre ?
Alors, justement, parce qu'on parlait de Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor, c'est quand même lui qui a créé les expéditions polaires françaises. S'il n'avait pas été là, je ne serais jamais parti là-bas. Mais Paul-Émile Victor, alors ça surprend les gens quand je dis que Paul-Émile Victor n'a jamais hiverné dans l'Antarctique, n'a jamais fait d'hivernage. Il venait assez régulièrement avec les relèves du bateau. Et par contre, les gens qui ont œuvré vraiment pour les missions polaires, ces gens-là sont restés un peu dans l'ombre. Tonton, notre chef d'expédition, Robert Guillard, qui était un homme vraiment d'exception, un type vraiment extraordinaire, je crois que j'ai jamais eu de supérieur dans ma carrière de cette valeur. Je disais toujours, c'est un peu notre Tabarly, quoi. Un peu taiseux, parfois ombrageux, pas toujours facile, mais un homme de grand cœur et même d'une grande sensibilité. Et ce monsieur qui a quand même fait commandeur de la Légion d'honneur, parce qu'il a fait 44 missions aussi bien dans l'Arctique que dans l'Antarctique, a un passé de résistant glorieux aussi. Et ça, jamais il n'en parlait. C'est que par ses proches qu'on arrivait à savoir ce qui s'était passé. Et puis, alors, l'autre personnage, qui est quand même assez... là aussi, c'est un personnage d'exception que j'ai rencontré. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'arrive dans ma radio... il y avait une équipe de chantier, des durs à cuire, là, des costauds, et je vois encore Jean, le chef de l'équipe de chantier, qui vient me voir. Et alors, il vient me voir dans ma radio, et il me dit, tiens, au fait, alors bon, c'est toi le nouveau radio, okay, et il me dit, est-ce qu'il y a la place pour dire la messe dans ton gourbi? Alors, je l'ai regardé, qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, la messe? Il me dit, oui, tu sais bien que demain, c'est Noël, quoi. Oui, c'est Noël, mais enfin, la messe, vous avez un curé. Ah, on t'avait pas dit, tu sais, je suis aussi curé. Je suis désolé, mais je l'aurais pas deviné, quoi. Et c'était un monsieur, là aussi, un personnage d'exception, là aussi, un grand résistant. Que ce soit avec Tonton ou avec Jean Volo, parce que c'est son nom, je suis resté en contact avec eux par courrier jusqu'à la fin de leur vie. On a toujours correspondu. Et ce qui nous a rapprochés, Jean Volo et moi, c'est que il a navigué, lui aussi, dans la marine marchande. Donc, on avait une expérience un petit peu commune. Et voilà, donc j'ai voulu parler de ces personnages qui sont méconnus. Même, j'ai évoqué quand même Le premier qui a mis les pieds en terre à Delhi après Dumont d'Urville, qui est quand même le capitaine de corvette Max Douguet qui commandait l'aviso au commandant Charcot, ben, ces gens-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je me dis, ben, c'est quand même l'occasion, moi, ma contribution très modeste hein, avec ce livre, mais de parler de ces gens-là.
Dans l'expédition, toi, on t'appelait le Breton, malgré exact. Le fait que tu revendiquais haut et fort tes origines illaises. Mais en fait, comme tu l'as dit, tu étais loin d'être le premier Ilais à avoir mis les pieds en terre à Delhi. Et donc, je voulais te demander pourquoi tant d'Ilais ont été attirés par l'Antarctique. Est-ce que l'esprit marin et insulaire prédispose à une telle aventure?
Alors, en ce qui concerne les deux Ilais qui étaient à bord de l'Astrolabe, il y avait Jean-Nicolas Chalot et, j'ai oublié son prénom, enfin, qui s'appelait Costiou aussi, hein, le deuxième. Je pense qu'ils se sont retrouvés là par hasard. Tout simplement, c'est que à une certaine époque, les marins de la pêche et du commerce faisaient obligatoirement des embarquements régulièrement sur les bateaux du roi, les bateaux de marine nationale. Je pense qu'ils se sont retrouvés tout à fait par hasard avec Dumont d'Urville à bord de l'Astrolabe. Et il y avait plusieurs Vendéens aussi. Alors ensuite, il y a un monsieur dont je voulais parler parce que j'ai quand même eu son témoignage et j'ai rencontré son épouse. Lorsque j'ai écrit le livre, là, il était une fois des marins, c'était Raymond Samzin. Raymond Samzin était aussi originaire de l'Île-Dieu et il a fait les trois missions à bord du commandant Charcot. Alors, il n'a pas fait d'hivernage, il a fait les missions, mais le bateau qui partait de Brest jusque dans l'Antarctique, hein, l'un des rares à avoir fait trois missions de suite. Après, moi, j'y suis allé. Alors, peut-être... Une petite aparté aussi concernant Patrice Pollian, qui était un biologiste qui s'était reconverti à l'agriculture, qui vivait à La Croix, hein, près des Vieilles, hein, donc, et qui a fait la quatrième expédition, je crois, de Kerguelen. Donc pas l'Antarctique, mais enfin voilà, c'est des gens qui sont oui. quand même partis dans les terres australes. Et puis, moi, tout à fait par hasard, alors pourquoi on me dit, est-ce que c'est dans les gènes? Comme j'ignorais à l'époque que cet ancêtre était parti, Jean-Nicolas Chalot. Non, je sais pas. Moi, je suis parti par goût de l'aventure. Ensuite, il y a Didier Simon, qui est de l'idée aussi. Et c'est lui, Didier Simon, qui a fait la couverture du livre. Hein, donc, on est deux îlets, du moins, à contribuer à ce livre, en tout cas. Et il a fait donc la 26e expédition et il a fait de nombreux raids sur le continent antarctique. Des raids de glaciologie, donc il partait comme il avait ici une société d'autocar qui fonctionnait bien l'été, mais l'hiver qui correspondait à l'été austral, il partait là-bas, donc parce qu'il était radio lui aussi, hein, j'ai oublié de préciser. Donc c'était un collègue.
Justement, tu as prononcé plusieurs fois ce mot de radio, puisque dans l'équipe, tu avais une profession particulière dont les plus jeunes, dont je fais partie, auront peut-être du mal à se représenter l'utilité. Tu étais radiotélégraphiste. En quoi cela consistait-il?
Alors, c'est vrai que pour les jeunes générations, maintenant, on a du mal à imaginer qu'on puisse faire, par exemple, un séjour de 13 mois sans téléphoner, sans Internet. Uniquement en échangeant un télégramme de 50 mots par semaine, envoyer et recevoir 50 mots, tout simplement parce qu'à l'époque, les liaisons spatiales n'étaient pas encore développées et que tout se passait par les liaisons hertziennes, la radio, notamment les ondes courtes. Et les ondes courtes donc, nous permettaient de rentrer en communication avec le monde entier, bien sûr, avec les autres stations, avec Kerguelen notamment. C'était le Morse, il n'y avait pas que le Morse, hein. Il y avait un système de télé-imprimeur aussi avec les Américains. On travaillait beaucoup comme ça, un système de télé-imprimeur. Donc même pendant l'hivernage, je donnais des cours de français à mes collègues américains. Par contre, avec les Russes, enfin soviétiques à l'époque, on ne transmettait uniquement en Morse. Et le Morse, c'était un moyen très sûr de communication, parce que lorsqu'il y a des brouillages, que la voix ne passe pas, le Morse, c'est un des systèmes qui passe le mieux. Et alors, c'est vrai que, alors je précise aussi que le gros problème de l'Antarctique et la zone où on était, la base du Mont d'Urville est à proximité immédiate du pôle sud magnétique. Mais on avait beaucoup d'orages magnétiques, beaucoup de périodes où les couches de la ionosphère disparaissaient, ce qui rendait impossible toute communication. Et ça pouvait durer parfois une semaine. Je crois qu'on a eu 10 jours de blackout radio complet. Donc isolé complètement du monde entier.
Ça a aussi créé des moments de communication très, très émouvants, notamment lorsque un officier de Saint-Lys, donc une base française, avait accepté un peu en dépit de toutes les règles de te mettre en contact direct avec ton père qui était sur l'île-Dieu.
Alors exact. Alors là, j'étais en totale infraction parce que on avait les fréquences du bateau danois, le Taladan, donc les ravitaillements. Et puis moi, de temps en temps, j'écoutais les ondes, hein, j'écoutais ce qui se passait. Et puis j'entendais Saint-Lys Radio qui arrivait, comme on dit dans notre jargon, plein pot. Et je me suis dit, tiens, et si ça passait, j'ai réglé mon émetteur sur la fréquence du navire danois, Taladan, avec l'indicatif WRX, oui, j'ai encore, je me souviens de ça. Et puis, j'essaie, et l'opérateur donc arrête sa bande, et dit, bon, bah, qui appelle, quoi. Et puis, bah, là, je me dis, zut. Alors, je lui dis, bon, ben voilà, je fais un test. En fait, je suis pas le Taladan, mais je suis l'opérateur radio de la base du Mont-d'Urville et que je voulais savoir si ça fonctionnait. Et donc, il y a eu un petit moment de silence et il m'a dit, t'es là-bas depuis combien de temps? Ben, je lui dis, ça fait, à l'époque, ça fait à peu près 10 mois. Encore un petit moment de silence et l'opérateur qui me dit, tes parents ont le téléphone? À Lille-Dieu, on n'avait pas le téléphone, mais mon père travaillait à la pharmacie du port et j'ai donné le numéro de téléphone de la pharmacie et l'opérateur a appelé la pharmacie qui a appelé mon père qui était complètement très, très ému parce que il était en contact, j'allais dire presque direct avec moi et l'opérateur de Saint-Lys a fait le relais par téléphone avec mon père et puis en morse avec moi. Et ça a duré un petit moment jusqu'à ce que la propagation reparte et que après plus rien. Ça m'avait beaucoup touché. J'avais voulu reprendre contact avec cet opérateur que j'ai fini par retrouver. Le nom, malheureusement, il était décédé au moment où j'ai voulu prendre contact avec lui.
Mais tu insistes aussi, malgré tout, régulièrement sur les données scientifiques qui étaient collectées par les expéditions. Et tu reviens à plusieurs moments dans ton livre sur les changements climatiques et environnementaux qui sont tout particulièrement visibles en Terre Adélie. Et donc, je voulais te demander si ce voyage a été pour toi une forme de prise de conscience de ce genre d'enjeu?
Oui, alors ce qui est important, on se rend compte quand on vit en contact permanent avec la nature, avec les animaux, on s'aperçoit que l'action de l'homme peut faire beaucoup de dégâts, notamment par exemple, ça me vient à l'idée, les manchots empereurs qui ne pondent qu'un seul œuf. Et si on perturbe cet équilibre, toute une génération de manchots peut disparaître hein, si on fait des dégâts. Et en fait, c'est ce qui s'est passé auparavant avec les toutes premières expéditions. Ils avaient des chiens de traîneau. Et les chiens de traîneau ont fait des dégâts considérables lorsqu'ils s'échappaient. J'ai pris conscience aussi, alors c'est notamment quand lors du trajet que le bateau était immobilisé dans la glace, par exemple. Moi, quand je naviguais, les déchets, ils étaient jetés par-dessus bord, et puis voilà. Et là, quand le bateau est immobilisé dans la glace, les déchets sont jetés par-dessus bord, mais restent sur la glace. Et c'est là qu'on s'aperçoit la quantité de déchets qu'un navire peut rejeter. Et que, bon, alors maintenant, ça n'existe plus, hein, tout est compacté. Quant au réchauffement climatique, alors, quand on regarde bien le livre, quand on lit les comptes rendus mensuels, on voit bien que déjà, on constatait une augmentation de la température. Hein, on voit bien, le mois de tel mois a été plus chaud que l'année passée. Il y a vraisemblablement déjà à cette époque-là une augmentation, certainement des températures. On a constaté aussi, quand on était là-bas, nous, une mortalité très importante des manchots empereurs, enfin des poussins de manchots empereurs, parce que les femelles ne revenaient pas. Alors, je ne vais pas décrire ici tout le cycle des manchots empereurs, mais les femelles avaient mis beaucoup de retard à revenir de la mer. Et on s'est aperçu, et c'est là que nous, les radios, on avait quand même des informations intéressantes, c'est-à-dire que on captait les émissions de navires, alors URSS, Allemagne de l'Est, qui pêchaient vers les 60e degré sud, donc à la limite de la banquise, qui vraisemblablement pêchaient du krill, ces petites crevettes qui servent de nourriture aux manchots. Et je sais que j'en avais parlé aux biologistes, hein, qui effectivement avaient pris cet argument en considération, que vraisemblablement il y avait quand même une raréfaction du krill qui a vraisemblablement occasionné les retards d'arrivée des femelles pour nourrir les manchots. Et d'où cette mortalité très importante.
On a bien sûr fait qu'effleurer les nombreux sujets que tu traites dans ton livre. Mais donc voilà, si vous voulez connaître tous les détails de cette mission antarctique, n'hésitez pas à vous procurer le livre « Là où souffle le blizzard, carnet d'un radio en mission antarctique 1971-1973 » de Jean-Paul Léger, disponible dans les deux librairies de l'Île-Dieu. Vous pourrez également le rencontrer lors de la Biennale du Livre, Place de la Pilée, le 12 août prochain. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Merci de m'avoir reçu.